L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
L'agriculture, c'est essentiel à la vie, quoi. Si sans agriculture, il n'y a pas de vie, quoi. Donc pour moi, l'agriculture durable, oui, c'est l'avenir. Mais il faut essayer de faire de moins en moins d'agriculture industrielle. Mais pour ça, la clé, ce n'est pas les agriculteurs qui ont la clé, c'est le consommateur. Donc moi, je dis merci aux consommateurs qui viennent chez nous, parce qu'ils cautionnent le système que les animaux vivent bien, que nous, les agriculteurs, on vit mieux, on ne pollue pas la planète. Donc c'est le client qui a la clé de tout ça. Donc en allant chez nous, en allant chez des producteurs, faire du local, ils cautionnent ce système et on bifurque l'autre système. En se refusant d'aller au supermarché ou d'acheter de l'industriel, ils s'arrêteront tout seuls. Donc la clé, elle est là, quoi. Donc il suffit de cautionner le système que l'on veut, quoi. Luc Martin et Florence, ma compagne. Donc on est éleveur de porc plein air et de brebis aussi, on a des brebis, de la race du Rouge du Roussillon, voilà. Mais surtout, on est basé surtout sur le cochon en fait. Hein. Donc nous, on essaye de faire une agriculture durable, on veut tout essayer de A à Z, c'est-à-dire de la graine jusqu'à dans l'assiette, tout maîtriser sur l'exploitation. Donc actuellement, nous avons 250 cochons tout confondus. Donc les petits cochons, le Véra, les truies, enfin voilà, on a 250 cochons. Donc toutes les mises de bas se font sur la ferme, l'engraissement et la transformation. Il y a l'abattage qui est fait à l'abattoir de Pézenas. Donc par contre aussi, on fait la nourriture des cochons. Donc on a à peu près 140 hectares de céréales, légumineuses et céréales, et on est en autonomie pour la nourriture.
Ces 250 cochons, ils peuvent gambader sur combien d'hectares?
Alors les cochons bangadent sur à peu près 4 hectares. Plus après les reproducteurs qui sont autour de la ferme, donc il y a à peu près 2-3 hectares pour les reproducteurs. C'est une reconversion avec Florence. Moi, je suis issu d'un milieu agricole. Pendant 17 ans, j'étais dans le bâtiment. Donc en 2015, nous avons acheté cette ferme en 2015 avec Florence et nous avons monté ce projet donc d'élever des cochons. Quoi.
Quel déclic, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à tous les deux?
On a voulu changer de vie parce qu'on trouvait que ce qu'on faisait, ça ne nous allait pas. Cette vie infernale, enfin... Moi, j'étais toujours sur la route, j'encadrais du monde, donc on a voulu changer de vie, elle a été comptable, on a voulu faire autre chose et moi, l'agriculture, ça m'a toujours plu depuis petit, donc on a voulu faire de la charcuterie. Moi, je suis issu de l'Ardèche, Sud-Ardèche, mais Florence, ma compagne, du Poujol, à côté de la Malou-les-Bains. Donc ça a été très compliqué pour trouver une ferme, donc on a cherché et on a trouvé via la SAFER, qui nous a aidé pour le financement, à trouver une exploitation viable. Donc au début, on a commencé par avoir des brebis la première fois, parce que la première année, j'avais droit au chômage, mais ça a été compliqué pour s'installer. Donc pour avoir des animaux de suite qui soient rentables, on va dire, donc les agneaux, je pouvais les avoir de suite, donc du coup, on a commencé par les agneaux. Et de suite après, j'ai pris les cochons, et j'ai commencé par 2-3 truies, un Véra, et de là, je suis monté petit à petit. On n'avait que 23 hectares de terre labourable, et petit à petit, on a fait des connaissances, on a loué, on a un petit peu acheté, mais très peu, et on travaille beaucoup maintenant avec les vignerons. Les vignerons, si vous voulez, dans la région d'Octon, de Salasque, Lieusson, Gignac, voilà, le Pouget, on va jusqu'à là-bas. Ils arrachent les vignes et pendant 3, 4 ans, 5 ans, ils ne plantent pas les vignes pour question sanitaire, pour réépurer la terre. Donc nous, du coup, on profite de cette terre, on l'entretient pendant 4-5 ans, et ça nous permet d'avoir des superficies de céréales suffisantes pour pouvoir suffire notre élevage.
Le porc et l'élevage du porc, mauvaise réputation, alors, oui. En particulier alors, en Bretagne, où ils sont tous entassés, donc quelle différence avec vous?
Alors, une sacrée différence, c'est que, à savoir qu'un porc industriel qui est élevé en Bretagne, dans des élevages industriels, ils sont tués à l'âge de 5-6 mois. Nous, ils sont abattus à l'âge minimum de 12 mois, voire 18 mois. Donc, vous imaginez qu'en nourriture, c'est le double, voire le triple en coût. Donc, du coup, ils grandissent moins vite, les cochons. La viande se fait beaucoup plus ferme et il y a moins d'eau. Donc, beaucoup plus en qualité et en persillage. On gagne en persillage. Donc, voilà la différence. Après, nous, nos mises bas se font à l'intérieur parce que les cochons, ils naissent... Ils naissent mouillés, donc il ne faut pas trop de courant d'air, des trucs comme ça. Donc ils naissent dans des cabanes ou à l'intérieur des bâtiments. Et au bout de 2-3 semaines, les petits vont dehors avec leur mère et après ils sont tout le temps dehors, quoi.
Pour avoir un porc de qualité, il faut bien qu'il y ait du plein air, effectivement, de la place. Il faut aussi qu'on leur donne à manger des choses.
Voilà.
Quelle est leur nourriture ?
Alors leur nourriture, c'est des légumineuses et des céréales. Donc qu'est-ce que c'est les légumineuses et les céréales ? Céréales, donc, c'est du blé, de l'orge et de l'avoine essentiellement. Et avec ça, on leur donne des légumineuses qui sont riches en protéines, de la fèverole, du pois. Alors, on les complémente avec ça. Et après, on leur donne...
C'est des végétariens, vos cochons ?
C'est des végétariens, ouais. On ne leur donne pas de viande, non. Non, on ne leur donne pas de viande à manger. C'est interdit, déjà, en France, de donner de la viande depuis la vache folle. C'est... On n'a pas le droit de donner de la farine d'animal au porc et aux ruminants, tout ça, on n'a pas le droit. Hein. Donc, c'est tout complètement interdit. Et oui, c'est des cochons qui mangent que du végétal. Bah, après, comme ils sont en plein air, ils peuvent manger des vermines, ils peuvent manger des choses qu'ils trouveront dans le sol, quoi. Des vers, des fourmis, des insectes. Toute notre transformation est faite sans additifs, ça c'est vachement important. Donc, il n'y a pas de conservateur, il y a juste du sel, du poivre ou des épices quand on utilise des épices, quand on fait du chorizo, des trucs comme ça. Mais il n'y a aucun additif et ça, c'est un combat qu'on combat tous les jours, quoi. Dans notre nourriture, même personnellement, quoi, dans notre façon de vivre, enfin dans tout, quoi. Les additifs, c'est un poison, quoi.
Donc, des porcs en plein air, donc ils respirent l'air, ils mangent bien. Ils sont malades, vos porcs, de temps en temps ?
C'est rare.
Et quand ils le sont, qu'est-ce que vous faites ?
C'est rare. Quand ils sont malades, quand c'est vraiment malade, une maladie qu'on arrive à détecter... Et là, on peut utiliser un antibiotique, comme nous, hein, quand on est vraiment malade. Je pense qu'on est bien content d'avoir ça si on est vraiment malade pour nous sauver, quoi. Mais c'est uniquement dans l'extrême, quoi. Après, on ne donne pas de préventif, c'est-à-dire dans la nourriture, il n'y a pas de... Comme dans l'industrie, il y a de l'antibiotique dans la nourriture d'entrée. Alors que nous, il n'y a pas d'antibiotique dans la nourriture, quoi. C'est vraiment dans la nourriture saine. C'est vraiment ponctuel, voilà.
Est-ce qu'il y a des normes, des contraintes dans votre type d'élevage ?
Depuis quelques années, on a la biosécurité qu'on appelle par rapport à la peste porcine, donc, qui est amenée par les sangliers. Donc, nous oblige à faire des zonages d'élevage, zonages personnels et au public. Et donc, le public n'a pas le droit de rentrer dans les zones où il y a les cochons et de marcher là où ils sont parce qu'on peut apporter des maladies et on peut justement amener cette peste porcine. Donc du coup, il y a des règles drastiques à respecter sur l'élevage et donc on doit être aux normes en vigueur depuis 2019, je crois que c'est.
Alors, je ne sais pas si ça existe dans votre secteur, mais en agriculture, il y a ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, les labels de ci, de là. Ça existe aussi pour votre activité ?
On va dire qu'on a notre propre label ou notre propre charte et nous, on mise vraiment sur le local, sur les gens qui habitent dans le coin, quoi. La partie, les estivants, quoi, ça c'est du plus en fait, on ne mise pas là-dessus nous. Nous on mise vraiment sur les gens qui nous font vivre le local, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les gens du coin, quoi.
Circuit court.
Circuit très court, très très court, c'est-à-dire que nous, plus au début on allait un peu plus loin, on allait vendre sur Pézenas, on allait vendre... Et là on essaye de se rapprocher au maximum de la ferme pour vendre au plus près de la ferme et au plus court, quoi, voilà. Alors déjà, on vend sur place à la ferme, donc en respectant bien sûr les heures d'ouverture. Après, on a une boutique de producteurs sur l'Audève, ça s'appelle À Travers Champs. Après, on est sur le marché de l'Audève le samedi matin, donc ça c'est moi qui le fais. Et le mercredi matin, c'est ma compagne Florence qui le fait sur Clermont-l'Hérault. Après, on est un dimanche sur deux à Montpellier, à Antigone, c'est un marché uniquement paysan et artisan. Et après, on est sur le bassin de Thau, le CPIE. On est sur Montbazin et sur Frontignan. Là, on livre uniquement une fois par mois, sur commande. Voilà, il faut aller sur le site, s'inscrire. Et vous pouvez commander. Nous, on cherche la vente directe et justement que les clients puissent nous poser des questions et avoir un dialogue sociable et avoir une confiance avec notre produit. Quand les gens nous payent par chèque, par exemple, on ne demande jamais la pièce d'identité parce qu'on estime que les gens ont confiance en nous. Donc nous, on a confiance totalement en notre clientèle aussi, quoi. Les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient rassurés. Il faut qu'on puisse avoir un dialogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent pour notre produit, mais ils viennent aussi pour nous. Et ça, je trouve vachement important sur tous les marchés, les boutiques de producteurs, partout où on va. On a un dialogue direct avec la clientèle et on se crée un lien, on se crée une confiance, ils nous posent chaque fois des questions, comment on travaille sur le produit, on fait voir notre passion, voilà quoi. C'est pour ça qu'on a créé les labels d'ailleurs. On a créé les labels pour les gens qui n'ont pas un contact direct avec les producteurs. J'estime que quand on est en direct avec un producteur, on n'a pas besoin de label, il suffit d'avoir confiance. Nous, on travaille sans produits chimiques sur nos terres. Voilà, on essaye de travailler avec des produits naturels, on travaille du compost. Donc,
Là aussi, oui, sur vos, puisque vous faites de vos céréales et vos légumineuses, là, vous les cultivez de quelle
alors,
façon?
Justement, on les cultive, on les mélange en fait. On les mélange parce que les légumineuses captent l'azote dans l'air. La céréale a beaucoup besoin d'azote. Donc du coup, la céréale profite de la légumineuse et de son azote. Mais du coup, on a notre mélange directement dans les champs. On a notre ration qui est équilibrée pour donner ça à nos cochons. Et avec ça, on complémente justement avec un minéraux qu'on achète par contre ça, des vitamines, des sels, tout ce qu'ils ont besoin en plus qu'on ne trouve pas forcément dans les céréales et pour les complémenter pour qu'ils aient un équilibre.
La viande, les viandes, pas forcément celles de porc, hein, mais les viandes sont
mal vues,
beaucoup décriées. Quel est votre sentiment là-dessus?
Je pense que moi je respecte tout le monde, donc déjà... le respect, déjà, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que l'être humain, c'est un chasseur-cueilleur et on a besoin de. Si on a évolué, c'est grâce à la viande. Il faut pas être. Moi, je suis pas carnivore, hein, personnellement, je mange de tout. Mais il faut avoir un équilibre et du moment que les animaux sont bien élevés, vivent longtemps et bien élevés dans un milieu. Paisibles et qui sont bien abattus sans stress, je vois pas ce qui pourrait déranger quoi. C'est vrai que la viande est de plus en plus chère, mais justement nous on reste sur des prix quand même très corrects. Je pense que les gens s'ils regardent vraiment la qualité-prix, on est quand même bien placé. Aujourd'hui, je vais pas nommer les grandes surfaces, mais sur certaines grandes surfaces aujourd'hui, on est allé voir les prix sur de la saucisse au rayon traditionnel, on est à 16,90 € le kilo. Chez les petits bouchers aussi. Et nous, aujourd'hui, on est à 15,20 € le kilo.
C'est quelque chose qui vous touche, ça, le dérèglement climatique, d'ailleurs, à titre personnel, ici, dans votre ferme, et puis sur le plan en général, ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe?
Ah, mais ça nous préoccupe beaucoup, surtout cette année. Cette année, on a une sécheresse vraiment historique. Je suis installé depuis 2015, et depuis 2015, chaque année, ça s'est un peu dégradé au niveau... Enfin, dégradé dans la chaleur, quoi. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps... Et plus on a des sécheresses intenses. Et aujourd'hui, on est vraiment impacté parce que cette année, je ne sais pas si on sera autonome.
Parce que ça s'arrose quand même, vos céréales et vos légumineuses, alors, non?
Et non, justement, l'arrosage sur ces plantes-là, normalement, non, les cycles normaux, on va dire, sont suffisamment en eau pour pouvoir pousser, quoi. Le problème, c'est que aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens d'arroser, quoi, parce que l'arroser, ça coûte très très cher. Il faut puiser l'eau à quelque part. Là, il y a des restrictions d'eau. C'est quand même assez compliqué. Et puis, il y a beaucoup d'évaporation. Si on arrose par canon, il y a plus d'évaporation que si on arrose par goutte à goutte, etc. etc. Donc, l'arrosage, c'est assez compliqué. Donc, il faut essayer de faire d'autres cultures, de faire des mélanges, semer à des endroits peut-être autres que devant chez moi et un peu plus loin, qui sont peut-être plus productifs. Il faut essayer de s'adapter, quoi, par rapport à ce qu'on peut faire, quoi, sur les sols, parce que toutes les terres ici, on a des terres assez compliquées sur Mérifond. C'est des terres un peu sableuses, un peu, et puis où il n'y a pas beaucoup de fond, en fait, il n'y a pas beaucoup de hauteur de terre. Du coup, ou c'est sec de suite, ou c'est très humide de suite, et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'inertie pour que la plante puisse pousser.
Revenons à nos cochons. C'est quoi comme race de cochons?
Alors nous, on est sur une multi-race, on a plusieurs races. Bon, on est surtout sur du Duroc. Le Duroc, c'est une race qui est d'origine d'Amérique centrale, qui a été croisée avec des porcs aussi d'Europe, mais qui est une race qui est très rustique et très adaptée à l'extérieur, qui crée moins le soleil, qui est beaucoup plus rustique. Et surtout, elle a un très gros avantage, c'est qu'elle est très persillée. Persillée, ça veut dire qu'il y a du gras entre le maigre. Voilà. Et ça, c'est très important pour quand on mange une grillade, une côtelette, ou un rôti, ou... On a la viande qui n'est pas sèche et qui est très bonne aussi pour la charcuterie, qui est exceptionnelle. Donc, et après, on fait des croisements parce que cette race, elle a des inconvénients. Elle n'a pas que des avantages, c'est que les mères sont pas très maternelles, donc elles font moins de petits que les autres. Et elles écrasent, sont moins dégourdies, elles sont plus ballots, quoi. Nous, on change les verras, du coup. Chez les confrères, en France, un peu partout, on fait des échanges où on achète des verras, ou purs ou non purs, quoi. Et on se débrouille comme ça, quoi. Je pense qu'on est quand même très peu au niveau port plein air, et on est quand même assez solidaires les uns des autres, quoi. Donc après, le port plein air représente 2%, je crois, en France, du port français, donc c'est que dalle. Donc on est vraiment, on nous compte sur les doigts d'une main. Donc on peut faire des échanges et on est très solidaires les uns des autres. Enfin, moi, quand il y a quelqu'un qui veut s'installer ou quelqu'un qui veut des conseils ou un confrère qui veut un cochon, eh bien, on essaie de s'aider, on essaie de s'arranger, quoi, tout simplement.
Alors en Bretagne, l'élevage du porc en particulier crée de la pollution, beaucoup de pollution. On parle des algues vertes, on parle des déjections en fait des porcs qui sont... C'est quelque chose qui ici, je ne sais pas, vous n'avez pas de problème avec les voisins, il y a des odeurs, il y a des déjections.
Nous, on a aucun problème là-dessus parce que nous, on ne fait pas de lisier. Le lisier, c'est, si vous voulez, les porcs bretons sur des calibotis, sur du béton troué en fait, où ils font l'injection et ça passe à travers. Et donc, c'est quelque chose de liquide qui ressort. Et ça, c'est polluant, en fait. Alors que nous, nos cochons sont en plein air. Donc, les déjections, elles sont dans la nature. Elles sont vachement détruites par les UV. Elles sont repompées par les plantes ou par les arbres. Et voilà, quoi. Donc, on a très peu de fumier. Nous, c'est du fumier déjà qu'on fait. Et le fumier, c'est très, très peu parce que c'est uniquement là où sont les truies pour les mises de bas ou les trucs comme ça. Donc, on a très, très peu de fumier. Et le peu de fumier qu'on a, on l'utilise pour notre jardin ou alors on le remet dans nos champs, quoi. Mais on n'a pas de lisier, donc on ne fait pas de pollution. On n'a pas de pollution, quoi.
Donc vous abattez vos cochons, vous m'avez dit à Pézenas.
À Pézenas.
Alors il y a beaucoup, on parle beaucoup là, c'est ainsi, de relations, pas amicales, émotionnelles, des éleveurs avec leurs bêtes. Ça vous fait quelque chose de les amener à l'abattoir, les vôtres?
Ah ben oui, on est quand même, avant tout, on a un cœur, hein, donc d'amener nos bêtes à l'abattoir, ça fait toujours mal, mais il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, je relativise et je dis que mes cochons me font vivre et je les élève, je les respecte. Donc, je les élève de la naissance jusqu'à leur mort. Je les élève bien, je leur donne bien manger, des bonnes choses. Ils ont des bassines d'eau pour aller se baigner et ils sont heureux. Ils vivent beaucoup plus longtemps, trois fois plus longtemps quasiment que dans l'industriel. Ils voient le soleil, enfin, ils font des bonnes siestes au soleil. Donc, du coup, je relativise là-dessus et je me dis que voilà, ça me déculpabilise. Voilà. Ben, je les amène avec ma bétaillère, donc à Pézenas, tous les jeudis. Ils sont abattus le vendredi et je récupère le samedi. Et le lundi, mardi, donc je transforme sur mon laboratoire, sur la ferme. J'ai un laboratoire en dérogation à l'agrément, avec un agrément, donc en dérogation. Et donc là, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait la découpe de la viande, on fait notre charcuterie et voilà quoi.
Et on dit que tout est bon dans le cochon, c'est vrai?
C'est vrai, avec le cochon, on peut faire X recettes. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, dans chaque région, il y a des recettes particulières. Donc, si on regroupe toutes les recettes particulières, ça ferait énormément de recettes. Et avec le cochon, on peut tout faire. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et oui, le cochon, avant, on en tuait un ou deux par an et ça permettait de faire manger la famille. Donc, du coup, il y avait pas, même les bouchers à l'époque ne faisaient pas trop de cochons parce que justement, il y avait beaucoup de cochons dans chaque ferme. Et chacun avait sa propre charcuterie, en fait, et faisait son propre saucisson. Et après, il s'est créé des charcuteries après, bien après, quoi. dans les années 50, il s'est créé beaucoup de charcuteries, on va dire industrielles ou artisanales, mais il s'en est créé après, parce que justement, ces fermes-là ont arrêté et il y a eu un marché à prendre là-dessus, quoi. Mmh.
Voilà. Dites-moi, alors, on connaît la saucisse, on connaît la viande à la découpe. Qu'est-ce que vous avez des particularités, des spécialités à la charcuterie du Salagou ?
Spécialité, oui. On fait donc déjà, on fait une saucisse fraîche à chaque saison. Donc l'été, on fait la saucisse à l'oignon basilic, qui est très particulière parce que le basilic se transforme quand il cuit et ça devient d'un excellent goût pour nous. Donc ça, c'est la saucisse oignon basilic pour l'été. Après, à l'automne, on fait la saucisse au cèpe. Donc on utilise les têtes de cèpe séchées françaises, mais juste les têtes. Après l'hiver, on fait la saucisse au chou, qu'on peut manger grillée ou qu'on peut accompagner dans un plat, une choucroute ou ce qu'on veut, quoi, ou une potée. Et après, au printemps, la saucisse à l'ail des ours. Donc c'est une plante que l'on trouve dans des ruisseaux, c'est une plante verte, qui a le goût de l'ail, voilà. Après, on peut faire aussi les côtelettes échines. On peut les faire vachement épaisses l'été, les gens nous le demandent, parce qu'ils travaillent ça comme une côtelette de bœuf. Ils retrouvent un goût du cochon qu'ils n'avaient jamais trouvé, quoi, et qui est excellente, quoi. Donc chez nous, on peut commander des côtelettes triples, ou qu'on peut faire au barbecue comme du bœuf. On le travaille, on en mange saignant. Parce que nous, en fait, on essaie de travailler un peu le porc comme un bœuf. Le porc est fait et fait pareil, a les mêmes muscles au même endroit qu'un bœuf. Et donc, on connaît très bien la bavette de bœuf. Et bien, on a la bavette de porc aussi. Donc nous travaillons la bavette de porc. Voilà. Après, on a la surprise aussi. La surprise, c'est la partie qui assure la palette, donc de l'épaule. Et ça, on fait ça. Dans le bœuf, on fait la fondue bourguignonne avec ça. Donc, vous pouvez trouver ce morceau chez nous. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on la vend même avant de l'avoir découpé presque. Mais les gens, quand ils tombent là-dessus, ils tombent sur une viande très tendre et très goûteuse, quoi. Donc, ça permet de réhabituer les gens à manger du porc un peu saignant et un peu comme du bœuf, quoi. Voilà.
On a oublié quelque chose là depuis qu'on parle. Vous m'avez dit que vous aviez des brebis, les pauvres. Vous les avez oubliés là, vous les aimez plus.
Alors, si, on a des brebis. Donc, nous, on a des Rouge du Roussillon de race. C'est une race qui est en voie de disparition, qui est maintenant sauvée grâce à l'association du Rouge du Roussillon. C'est pas pour ça aussi qu'on a la terre rouge, qu'on a des Rouge du Roussillon. C'est qu'on a choisi cette race là parce qu'elle est très très rustique. C'est une race qui est d'origine d'Afrique du Nord, qui ressemble beaucoup déjà même aux brebis qui sont sur l'Afrique du Nord. Et donc, qui est une race qui est très, très adaptée à notre terroir. Et donc, voilà. Donc, on a à peu près 100 brebis aujourd'hui, à l'heure actuelle, et 3 béliers. On fait naître les agneaux au mois de février-mars, on va dire, de mi-février à mi-mars. Enfin, mars, des fois, ça peut durer. Après, les brebis, elles sont tondues début mars. Pourquoi on les tond très tôt, nous, ici ? Parce qu'on les monte en estive. On les monte en montagne, donc l'été, dans les Cévennes, au bar des Cévennes, l'estive. Et donc, du coup, on le redescend après, début septembre. Et là, on les remet à la lutte avec le bélier et le rose. Et le cycle continue. Donc, les agneaux sont vendus sur commande. Mais on peut le retrouver l'été, au mois de juillet-août. On fait de la merguez, par contre, qu'avec de la brebis. Donc, nos brebis de réforme servent de merguez. Donc, ça, vous le retrouvez dans notre camion, sur nos étals. Et après, sur commande, vous pouvez commander. Alors, on a de temps en temps de l'agneau, puis après, sur commande, vous pouvez commander en caissette des agneaux, des demi ou des entiers, mais c'est découpé. Voilà, sur commande.
Alors, le monde agricole est un peu en effervescence, en ébullition, en combat, en conflit. Qu'est-ce que vous attendez un peu des collectivités autour de vous pour vous aider à vous ? Là, ça fait la fée, si j'ai bien compris, mais pour aider les jeunes à s'installer, quels sont les problèmes qui se posent ?
L'élevage, c'est très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, l'élevage, parce que c'est pratiquement que de père en fils. Quelqu'un qui a un élevage comme nous et qui crée un élevage comme on fait nous, c'est très rare, d'ailleurs, nous, la SAFER nous l'avait dit. Parce que nous, on avait un petit peu de fonds au départ, parce que j'avais travaillé dans le bâtiment et on avait des fonds, donc du coup, on a pu le faire. Mais le plus dur aujourd'hui pour qu'un jeune s'installe, c'est le foncier. On sait très bien que le foncier, c'est compliqué. Et donc, du coup, il faut que peut-être que les communes prêtent ou louent leur terrain communal, ça serait bien, à des jeunes. Et pour qu'ils puissent s'installer, parce que souvent ils ont des surfaces qu'ils n'utilisent pas, qui pourraient aider. Après, il y a un truc aberrant que je trouve au niveau des collectivités, là, il faudrait qu'ils fassent attention, pour moi, hein, je parle, c'est les routes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus de routes, il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas utilisés. Quand on voit sur les bords d'autoroutes, partout, les terrains qui sont fauchés, qui sont entretenus, qui sont bien entretenus, qui sont beaux, qui sont faits avec des mécanisés par des agents, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui trouver un système avec des clôtures esthétiques et sécurisées, pour la sécurité bien sûr, mais mettre des animaux de temps en temps là-dedans, ou faire pousser des choses, ou faire des jardins, avoir un accès, parce que c'est des terrains qui sont perdus, quoi, en fait, qui sont... Ils mettent de la végétation, ils mettent de l'herbe, ou des rochers, ou quelques arbres. Mais pour moi, ça serait bien que ces terrains qui représentent beaucoup, beaucoup de superficie, ils pourraient peut-être servir à quelque chose et y réfléchir à ça, parce que ça, c'est vachement important. Ouais, et faire attention aussi de ne pas faire des zonages, trop construire dans des zones agricoles où les terrains sont fertiles. Il faut mieux construire sur des terrains rocheux. Et pendant 40 ans, si on regarde bien, on a construit, on a fait des routes sur des terrains agricoles, et c'est irréversible. Le problème, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Et c'est pareil pour les constructions. Les constructions devraient être dans des endroits beaucoup plus arides, ou plus sur des rochers, ou plus que sur les terres agricoles, parce qu'aujourd'hui, les terres agricoles, ils s'en réduit beaucoup par jour, quoi. Donc c'est énorme, quoi.
Vous êtes optimiste pour l'avenir là, de votre activité ?
Mais moi, si j'ai fait ce métier, c'est que je crois beaucoup à l'agriculture. Depuis le début, mon père était déjà à l'agriculture. Enfin, il est toujours. Enfin, il est à la retraite, mais bon, il est plus avec mon frère. Mais moi, je crois toujours à l'agriculture parce que on a besoin de on vit pour quoi ? Pour, à la base, pour, je pense, pour se nourrir, pour se loger, pour se reproduire. Enfin, on est là pour ça, quoi. Donc, l'agriculture, c'est essentiel à la vie, quoi. Si sans agriculture, il n'y a pas de vie, quoi. Donc si on ne fait pas d'agriculture, donc pour moi, l'agriculture durable, oui, c'est l'avenir. Mais il faut essayer de faire de moins en moins d'agriculture industrielle. Mais pour ça, la clé, c'est pas les agriculteurs qui ont la clé, c'est le consommateur. Donc moi, je dis merci aux consommateurs qui viennent chez nous, parce qu'ils cautionnent le système que les animaux vivent bien, que nous, les agriculteurs, on vit mieux, on ne pollue pas la planète. Donc c'est le client qui a la clé de tout ça. Donc en allant chez nous, en allant chez des producteurs, faire du local, ils cautionnent ce système et on bifurque l'autre système. En se refusant d'aller au supermarché ou d'acheter de l'industriel, ils s'arrêteront tout seuls. Donc la clé, elle est là, quoi. Donc il suffit de cautionner le système que l'on veut, quoi. Et c'est un cercle vicieux. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais c'est un cercle vicieux aussi. Si on va vraiment toujours, toujours au moins cher, on cautionne toujours le même système. Et qui sait quand souffriront ? C'est ceux qui ont acheté le moins cher, parce que c'est les plus pauvres. Donc en fait, il vaut mieux manger moins, mais manger mieux. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Ils sont dans ce système où ils ne se rendent même pas compte. Ils vont au travail, ils vont rentrer chez eux, ils vont au sport, ils vont au supermarché, ils vont en vacances. Ils sont dans un cycle... au quotidien, qui ne se rendent même plus compte de qui ils sont même. Et ça, pour moi, c'est grave, quoi. Enfin, c'est surtout le consommateur qui cautionne ce système. Moi, je suis contre les intermédiaires. Contre, totalement contre. Moi, je suis pour tout ce qui est direct.
On va arriver un peu à la fin de notre entretien. Luc Martin, heureux de faire ce métier ?
Très heureux, très heureux. Je regrette rien, à part que le climat, on a des aléas climatiques, mais à part ça, moi je dirais que tout va bien. Ouais.
La qualité, c'est un grand combat, un long combat. Vous continuez à combattre pour une meilleure qualité, ou vous pensez être arrivé à un bon équilibre ?
Je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre, parce que maintenant on est en autonomie, donc du coup, du fait de tout maîtriser, ça nous coûte plus cher à nous, mais derrière on s'y retrouve parce qu'on a une qualité de produit qui est supérieure à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi.
C'était Luc Martin, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.